Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce mardi 14 décembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes et l'adjoint du chef d'état-major des opérations et de la planification d'Oman ont souligné la nécessité d'étendre davantage la coopération militaire et de défense entre les deux pays. La base militaire américaine à Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, a été attaquée par plusieurs missiles et au Soudan tire de lacrymogènes sur des centaines de manifestants anti-putsch. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Hossein Barelli, et l'adjoint du chef d'état-major des opérations et de la planification d'Oman, le général de brigade Abdulaziz Abdullah Al-Mansri, lors d'une réunion à Téhéran lundi 13 décembre, ont souligné la nécessité d'étendre davantage la coopération militaire et de défense entre les deux pays. Lors de la rencontre dans la capitale iranienne, lundi 13 décembre, les deux parties ont exploré des pistes pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines de la défense et militaire. Les deux parties ont également échangé des points de vue sur le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération dans le domaine militaire. Parmi les principaux sujets discutés entre les deux parties, la promotion des relations éducatives et militaires, la lutte contre le terrorisme et l'établissement de la sécurité dans la région sans l'intervention de forces étrangères. Fin octobre, le général de division Barelli a déclaré que le retrait des forces américaines d'Afghanistan et d'autres pays de la région témoigne du déclin de la puissance de ce pays. Le général Barelli a évoqué l'évasion des États-Unis d'Afghanistan, le début de l'évacuation des troupes américaines d'Irak et de certaines parties de la Syrie, la réduction des équipements de défense aérienne américains de pointe le long du golfe Persique et le transfert des forces navales américaines vers des territoires du sud de la Chine comme des signes du changement de pouvoir des États-Unis dans le monde. Une base militaire américaine en Syrie a été prise pour cible. La base militaire américaine, proche du champ pétrolier d'Al-Omar, située dans l'est du rift de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, a été attaquée par plusieurs missiles. Des sources locales ont déclaré avoir entendu au moins 4 explosions et avoir vu une colonne de fumée s'échapper de l'intérieur de la base. Après l'explosion, des drones américains ont survolé la zone pour surveiller les régions autour des puits pétroliers. À Saqqa, la centrale électrique de Tal Tamar, dans la banlieue de la ville, a été mise hors service du fait des dégâts causés dans la ligne de tension électrique qui l'alimente, dans des attaques aux roquettes menées par les forces d'occupation turques contre des villages situés dans la banlieue nord-ouest de la ville. Dans une déclaration qu'il a donnée au correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, le directeur général de l'établissement de l'électricité de Saqqa, Anwar Okla, a précisé que la centrale alimentait les zones, les villages et les agglomérations dans la banlieue ouest de Saqqa. Un autre drone de reconnaissance de la coalition d'agression saoudienne a été abattu dans la nuit de lundi à mardi 14 décembre dans le ciel de Shabwa, à l'est du Yémen. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a annoncé que la défense anti-aérienne du Yémen avait détruit dans la nuit de lundi à mardi un drone de reconnaissance CH-4 appartenant à la coalition d'agression saoudienne au-dessus du district d'Asilan qui appartient à la province de Shabwa. Le CH-4 menait une mission d'espionnage quand il a été abattu par un missile solaire de la DESA yéménite, a précisé le général Sali. C'est le deuxième CH-4 de l'aviation saoudienne qui a été abattu en une semaine par les systèmes de défense anti-aérienne de l'armée et des comités populaires du Yémen. Dans le sud-ouest de la province d'Hodeïda, d'intenses affrontements ont été signalés en banlieue d'Aïs. Selon une source sur place, les mercenaires à la solde de Riyad continuent de mener une série d'assauts épaulés par l'aviation saoudienne afin de barrer la route aux combattants yéménites qui essayent de progresser dans les régions voisines de Haïs. Les combattants yéménites, qui se sont vus confrontés à une attaque surprise des mercenaires pro-saoudiens, ont décidé de procéder à un recul tactique qui s'est soldé plus tard sur une contre-attaque suite à laquelle les mercenaires ont été encerclés, a expliqué la source, ajoutant que des dizaines d'éléments pro-saoudiens avaient été tués ou blessés. Une quinzaine de véhicules militaires des mercenaires ont été détruits, a-t-elle aussi indiqué. La coalition d'agression saoudienne fait tout pour renforcer ses positions aux alentours d'Aïs, car elle sait bien qu'en perdant Aïs, elle perdra Hodeïda. La source yéménite a précisé que les forces de Sanaa avaient déjà atteint les monts du nord et du sud-est d'Aïs, qui surplombaient la banlieue de la ville. Pendant les derniers jours, les combattants yéménites ont lancé plusieurs attaques contre les mercenaires et leur ont infligé des victimes et des dégâts par les frappes aux missiles. Les combattants yéménites ont identifié et détruit la voiture du général de brigade Salah Salem, commandant de la 6e brigade des forces pro-Riyad, par un missile thermique. Tous les occupants de la voiture ont été tués, a indiqué la source. La ministre allemande des Affaires étrangères a menacé que le gazoduc Nord Stream 2 ne serait pas opérationnel en cas de nouvelles tensions entre la Russie et l'Ukraine. La ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré dimanche que la décision était basée sur un accord conjoint entre l'ancien gouvernement allemand et les États-Unis. Conjointement à l'annonce, le premier ministre polonais a mis en garde le nouveau chancelier allemand en visite à Varsovie quant au lancement du gazoduc Nord Stream 2. Malgré l'achèvement de la construction du gazoduc Nord Stream 2, son exploitation a été reportée en raison d'une litige juridique. Mais à vrai dire, l'Occident craint que le lancement du pipeline Nord Stream 2 n'affaiblisse l'Ukraine économiquement et diplomatiquement, puisqu'à ce jour, le pays a été un important fournisseur de gaz russe vers l'Europe. Les pays d'Europe de l'Est et de nombreux alliés traditionnels de l'Allemagne en Europe de l'Ouest, ainsi que les États-Unis, estiment que les importations directes de gaz de la Russie vers l'Allemagne, sans passer par l'Ukraine, augmente la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de Moscou, tout en empêchant l'Occident de jouer un rôle déterminant dans les conflits entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a toujours nié tout projet d'invasion de l'Ukraine, accusant Kiev et Washington de déstabiliser la région. Moscou se dit contraint de créer des garanties de sécurité à ses frontières avec l'Ukraine afin de se protéger. La police soudanaise a tiré lundi 13 décembre des grenades lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants rassemblés aux abords du palais présidentiel à Khartoum pour réclamer un pouvoir civil, selon des témoins oculaires. De nombreux Soudanais opposés à un pouvoir militaire manifestent régulièrement pour dénoncer le coup d'État mené le 25 octobre par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et pour exiger la remise du pouvoir aux civils. Selon des témoins, des manifestants défilaient au aussi dans les états de Kassala et Gadaref, dans l'est du pays. Des manifestants sont rassemblés dans le centre de la ville et scandent « non au pouvoir militaire », a indiqué Ahmad Idriss, un habitant de la ville de Kassala, tandis qu'une résidente de la ville de Gadaref, Amal Hossein, a pour sa part fait état de quelques 600 manifestants, brandissant le drapeau soudanais et appelant à un pouvoir civil. Depuis le putsch du 25 octobre, 44 manifestants ont été tués et des centaines blessés, notamment par balles, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Ce jour-là, le général Burhan avait fait arrêter la plupart des civils qui dirigeaient le pays avec lui. Le 21 novembre, il a signé un accord avec le premier ministre civil Abdallah Hamdok, qui a alors pu sortir de sa résidence surveillée et retrouver son poste. La nouvelle entente entre le général Burhan et M. Hamdok a été dénoncée comme une trahison par les manifestants qui continuent de protester. Les autorités ont promis un gouvernement formé de civils, mais il n'a pas encore été annoncé. Rafale, F-16, F-35, mobilisés contre l'Algérie. Depuis 2 mois, l'axe US-Israël ne cesse de militariser le ciel du Maghreb, lui qui a si lamentablement perdu la bataille du ciel au Moyen-Orient face aux drones et aux missiles de la résistance. C'est à croire que la flotte défaite US-Israël cherche quelque part où s'implanter après avoir perdu au Moyen-Orient. Mais le Maghreb est sans bon choix. Rien n'est moins sûr, vu la qualité de la DSA algérienne et l'aptitude des pilotes algériens à chasser les cibles ennemies. Des médias israéliens mentionnent des sites d'information marocains pour dire que Rabat a demandé à Tel Aviv d'intercéder auprès des Américains pour qu'ils lui fournissent des avions furtifs F-35 afin de faire face à des problèmes de sécurité. L'objectif envisagé par le Maroc dans cet accord de plusieurs milliards de dollars est de se protéger face à l'Algérie et le front Polisario, disent les médias israéliens. C'est depuis Nazareth, dans le nord de la Palestine occupée, que le journaliste palestinien Zohair Andaros s'attarde sur le sujet dans un article publié par l'édition du lundi 13 décembre du journal arabophone Rayal Yaoum. Le site web de la chaîne 12 de la télévision israélienne a diffusé un reportage sur l'accord d'armes entre Israël et le Maroc et le reporter Shai Levi y affirme qu'en plus de l'achat d'armes par le Maroc à l'entité occupante dans le cadre des relations plus étroites entre les deux parties, des sites marocains ont rapporté que Rabat a également envoyé une délégation à Tel Aviv avec une demande pour faire pression sur les États-Unis. A écrit l'analyste palestinien Zohair Andaros pour le journal Rayal Yaoum, ajoutant « Selon la chaîne 12 de la télévision israélienne, qui se base sur des médias marocains, la question des avions a été examinée lors de la visite du ministre israélien des Affaires militaires Benny Gantz au Maroc, comme une demande personnelle du roi Mohamed VI, dont le pays cherche actuellement à renforcer ses capacités en termes de sécurité et par conséquent, il cherche à acheter des milliards de dollars d'armes pour moderniser son armée, confrontée à un certain nombre de défis sécuritaires. » L'article ajoute que le correspondant de la fameuse chaîne 12 pour les questions militaires, Nir Dvori, a cité des sources sécuritaires bien informées à Tel Aviv, d'après lesquelles Israël avait précédemment rejeté les demandes du Maroc de lui fournir des armes. Mais maintenant, après le renforcement des liens et la normalisation, l'entité a accepté la demande de Rabat, soulignant que le Maroc vise à travers cet accord à se protéger face à l'Algérie et au front Polisario au Sahara occidental. Par ailleurs, selon le site d'information israélien I24 News, des agents de renseignement marocains ont laissé entendre que l'Algérie avait l'intention de déclencher bientôt des agissements à la frontière commune avec le Maroc et d'ajouter que ce dernier, se souciant de relever ses défis sécuritaires, cherche à son tour à conclure un énorme accord d'achat avec Israël qui comprend des drones et d'autres types d'équipements militaires. L'armée de l'air marocaine possède actuellement 100 avions de combat, dont d'anciens avions Mirage F1, F5 et F-16CD. Le Royaume a récemment signé un accord pour l'achat de 25 avions F-16V, qui est le dernier modèle pour ce type d'avion. Le Maroc utilise actuellement des drones israéliens Héron, ainsi que des systèmes pour intercepter des avions sans pilote Scalock, à quoi s'ajoutent des véhicules blindés et non blindés. Rabat a également l'intention d'acheter à Israël des systèmes d'interception du missile Barak 8 et des drones suicides, ajoute le journaliste palestinien dans son article pour Rayal Yaoum. Plus tôt, des sources d'information avaient annoncé que les Émirats arabes unis aussi s'apprêtaient à céder une flotte de 68 avions de combat Mirage 2009 au Maroc et à l'Égypte, après avoir passé une commande ferme de 80 avions de combat Rafale auprès de la France. Décidément, il devrait y avoir quelque chose de parfaitement inouï dans l'armée de l'air algérienne.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les Émirats arabes unis qui avaient fait une commande de 80 Rafales, des avions de combat très sophistiqués auprès de la France, ont décidé tout d'un coup de céder une partie de sa flotte de Mirage à l'Égypte, mais également au Maroc. C'est une première. Mais également, il faut également citer l'Algérie, qui a également cédé au charme de la vente d'armes par la France, qui a également commandé beaucoup de Rafales à cette dernière. Alors, il reste à savoir comment cette vente d'armes très onéreuse, mais également parfaitement calibrée par la France, est poussée par Israël ou non. C'est ce que nous allons essayer de voir avec des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Après avoir fait une commande ferme de 80 avions de combat Rafale auprès de la France, les Émirats arabes unis s'apprêtent à céder une flotte de 68 avions de combat Mirage 2009 au Maroc et à l'Égypte. À l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron, les Émirats arabes unis ont signé un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale, indiqué l'Élysée dans un communiqué précisant qu'il s'agit de la commande internationale la plus importante jamais enregistrée pour cet avion de chasse mis en service depuis 2004. Cette commande vise à remplacer la soixantaine de Mirage 2009 acquis en 1998 par les Émirats et dont une partie sera transférée au Maroc et l'autre à l'Égypte. Le Mirage 2000 est la dernière version de ce type qui a été fabriquée en France pour l'UAE Air Force. L'avion est équipé des technologies très avancées qui lui permettent de mener des attaques aériennes de haute précision. Le Maroc est également sur le point d'acquérir 8 hélicoptères Caracal H-225M qui viendront s'ajouter à sa flotte militaire. Ce contrat, qui vient à point nommé la conclusion de négociations portant sur un contrat d'acquisition de 8 hélicoptères H-225M Caracal auprès d'Airbus Hélicoptères, ont réuni les parties marocaines et françaises. De son côté, le Maroc est déterminé à réaliser le plan de modernisation de son arsenal militaire qu'il a entamé ces dernières années, alors que le projet de loi de finances marocain pour 2022 a alloué 12,8 milliards de dollars pour l'achat et la réparation d'équipements pour les forces armées royales marocaines.
Voilà pour le reportage. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts des questions internationales, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions politiques depuis Paris. Monsieur Cornu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à Monsieur Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui est avec nous également depuis Paris. Monsieur Hugon, bonjour.
Bonjour à tous.
Bien, nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite avec ma première question à l'égard de Monsieur Bernard Cornu depuis Paris. Alors, Monsieur Cornu, bien sûr, la France qui essaye de vendre des armes très, très sophistiquées à certains pays de la région, en commençant par les Émirats arabes unis, mais également la France va au-delà de là et vend des armes au Maroc, à l'Égypte et à l'Algérie, qui va très certainement déboucher sur l'instabilité et peut-être pas la guerre. Que pensez-vous ?
Disons, moi je suis en général pour un désarmement total et qu'une sécurité organisée au niveau mondial, global, qui couvre non seulement les aspects militaires, mais d'autres aspects de santé et de sécurité contre le banditisme et tout ça. Donc, de toute façon, je suis contre ces ventes d'armes, mais pour le désarmement global. mais il est assez logique que la France cherche à, et le gouvernement actuel cherche à promouvoir des ventes. Notre ministre des Affaires étrangères était député dans une région qui fabriquait des armes et il est très intéressé par ce sujet-là, beaucoup plus que par rechercher la paix, y compris au Yémen ou à la guerre en Syrie où nous sommes, où la France est impliquée malheureusement aux côtés des Américains. Et donc face à des pays très riches comme les Émirats, il est aussi logique malheureusement qu'ils cherchent à moderniser leur armement et à s'attirer les faveurs de la France. Voilà, malheureusement face à l'Égypte qui aurait d'autres choses à acheter que des armes et qui n'en a pas vraiment besoin. On peut être beaucoup plus sceptique et, disons, déçu même de cette attitude de la France. Ce que je remarque, c'est que quand même, il y a eu des dialogues politiques dans la dernière tournée du président Macron au Qatar, dans les Émirats et en Arabie Saoudite. Et j'espère que, même si je ne le sais pas, j'espère qu'il a pu discuter avec les Émirats, ce client très fortuné, qui récemment s'est sorti en grande partie de la guerre au Yémen, discuter aussi du conflit en Syrie, puisque un ministre des Émirats s'est rendu récemment à Damas et dans le but de négociation, donc on ne connaît pas le détail, dans le but peut-être aussi de faire rentrer à nouveau la Syrie dans la Ligue arabe, dont elle était suspendue malheureusement de façon très injuste. Donc, est-ce qu'il y a eu des discussions de paix? Si effectivement il y a eu ces discussions tendant à trouver des solutions politiques en Syrie, à cesser les combats, cesser les envois de mercenaires financés par les pays riches du Golfe, alors effectivement cette visite serait positive et je voudrais bien éventuellement, disons, excuser ou pardonner cette vente d'armes que je ne souhaitais pas. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est le dialogue pour la paix avec les pays qui ont une influence dans cette région-là, a priori parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'ils ont du gaz et aussi parce qu'ils sont riches et qu'ils ont les moyens de financer des mercenaires, y compris au Yémen d'ailleurs, où le Soudan a été prié d'envoyer des mercenaires sur le terrain. Voilà, donc je pense que ces considérations d'ensemble sont importantes. La paix est prioritaire, les armements ne sont pas nécessaires.
Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Monsieur Hugon depuis Paris. Alors, Philippe Hugon, d'abord, merci d'être avec nous. Alors, le ministre de la Défense s'est rendu en Algérie. Et voilà que maintenant, le président français se rend aux Émirats arabes unis et ont l'audace, tous les deux, de parler de la paix, alors qu'ils sont là pour vendre des armes qui va certainement déboucher sur l'instabilité et même sur la guerre. Que pensez-vous?
Oui, alors je pense qu'il faut d'abord se poser cette première équation, c'est de savoir combien rapporte la paix. La paix ne rapporte pas d'argent, la paix, elle en coûte de l'argent. La vente d'armes rapporte énormément d'argent, mais des sommes absolument colossales. Donc on ne va pas passer à côté d'un tel marché. Et quand je dis « on », bien sûr, c'est la France, c'est à la fois les industriels, qui collaborent avec les fabricants d'armes et avec les vendeurs d'armes, pardon. Et donc, on peut estimer aujourd'hui que ce marché avec les Émiratis, mais pas seulement avec les Émiratis, c'est le cas avec tous les pays, Maroc, Algérie, tout ce que vous voulez, dès l'instant où vous avez de pareilles sommes en jeu, eh bien, on a un vrai dicton en France, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Le problème, c'est que la vente de ces armes va obligatoirement créer des zones de tension et va déstabiliser un certain nombre de gouvernements qui va pouvoir interagir et faire pression sur d'autres pays moins bien équipés, moins bien préparés à la guerre. Alors il faut savoir qu'on a cette deuxième équation qui est la surpopulation que l'on a à travers le monde. Hein. On est bientôt 8 milliards. On sait très bien que la planète ne peut pas supporter un tel poids et que dans les 15 ans qui viennent, il faudra éliminer 4 à 5 milliards de personnes si on veut conserver un certain équilibre. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, on est à l'aube d'une famine mondiale, personne n'en parle, tout le monde fait l'autruche. Les mines de phosphore sont en train de s'assécher et on va avoir une période extrêmement instable dans les années qui viennent. La crise financière va nous rattraper également, mais là, je pense que ça demandera 5 à 6 ans afin de retrouver une crise absolument gigantesque comme on n'en a pas connu à travers le monde actuellement. Donc, on a actuellement une conjoncture de situation qui va nous mettre dans une situation extrêmement complexe. Alors bien sûr que je suis contre la vente de ces armes, hein. On ferait mieux de fournir des produits alimentaires et des médicaments à des pays qui en ont vraiment besoin plutôt que de financer ces armes de mort, puisque ces armes serviront. Il faut bien savoir que ces armes ne sont pas anodines et ces armes vont servir dans les années qui viennent à répandre la mort. Donc je ne peux pas collaborer et cautionner cette vente d'armes. Mais il faut savoir que la France est en faillite financière, qu'on a une situation économique absolument catastrophique. Et comme je vous le disais, l'argent n'a pas d'odeur. Donc quand on peut récupérer des marchés et prendre des marchés à d'autres nations, eh bien on ne va pas se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. On continuera de vendre des armes comme on l'a toujours fait. Ce n'est pas, l'histoire ne date pas d'hier, hein. On a vendu des armes en Afrique, on a vendu des armes en Asie, on a vendu des armes de partout. Et si en plus cette vente d'armes permet de rapporter beaucoup, beaucoup d'argent et de pouvoir ingérer dans un certain nombre de pays et créer des zones de déstabilisation, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient ou en Asie, ce phénomène-là ne pose pas du tout un problème moral à nos politiques et à nos financiers. Donc il faut bien s'attendre à ce que ces ventes d'armes se réalisent d'une façon permanente à un certain nombre de pays qui, je dirais, sont entre guillemets pas respectables.
Oui, vraisemblablement, vous êtes tous les deux contre la vente d'armes, mais le gouvernement français ne voit pas cette affaire de cet œil-là. Et Bernard Cornu, bon, il faut savoir que quand même, cette vente d'armes s'effectue malgré tout, mais la question qui se pose de Bernard Cornu est la suivante. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? D'une part, on envoie des émissaires partout dans le monde pour défendre le droit de l'homme et parler de la paix en Algérie, par exemple. Et de l'autre côté, on vend des armes qui vont certainement déboucher sur la mort de centaines et des milliers de personnes.
Ah, c'est sûr qu'il y a une contradiction de fond. Nous sommes conscients en France et nous connaissons les violations des droits de l'homme évidentes qui sont dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, le principal, c'est là où il y a le plus de violations, mais aussi d'autres pays riches qui ne respectent pas les droits liés à la pratique des religions, qui ne respectent pas certains droits des femmes. Effectivement, nos pays occidentaux sont un peu hypocrites de pouvoir accepter de vendre des armes à ces pays-là sans discuter fermement, publiquement, des droits de l'homme. Alors certains dirigeants disent qu'ils en discutent en privé en évitant des proclamations publiques. Bon, on ne peut pas rendre compte effectivement de ces discussions privées s'il n'y a pas de communiqué à la suite. Je voudrais quand même nuancer la paix. La paix rapporte de l'argent parce que la paix maintient les clients, alors que la guerre détruit nos clients pour des produits généraux, des réfrigérateurs, des télévisions, de l'alimentaire, des machines et tout ça. La guerre détruit nos clients, détruit l'économie des autres pays et donc elle est très nocive. Il faut donc promouvoir beaucoup plus la paix pour que l'ensemble du monde se développe. Si les armements génèrent de l'argent, ça les génère pour un secteur très précis de la technologie, très avancé. Pour des gens, les marchands d'armes, on a vu parfois dans des ventes dans différents pays des commissions qui faisaient plusieurs centaines de millions de dollars et qui revenaient en partie vers les politiques qui étaient en connivence avec ces marchands d'armes. Et donc ceci est très dommageable pour la stabilité même de nos pays. Et d'ailleurs, des enquêtes sont encore en cours en France sur des affaires au Pakistan, sur des affaires en Libye. Et donc, il est important que la justice aille jusqu'au bout pour dévoiler tout ce qui a entouré ces ventes d'armes. Et d'ailleurs, pendant la guerre Irak-Iran, il y a eu des ventes d'armes actionnées par les Américains, par les Israéliens, pour que le conflit dure. Donc les marchands d'armes sont toujours très présents pour entretenir les guerres et parfois même les démarrer. Et donc ceci doit être analysé de très près. Et chaque fois qu'il y a des actions en justice, il faut les pousser jusqu'au bout. Et que je pense que l'espérance du monde est que dans une justice qui fonctionne au niveau universel et jusqu'à des chefs d'État, quand ces chefs d'État, des chefs d'État ont menti, ont abusé de la confiance des gens, ont manipulé les médias pour provoquer des guerres.
Bernard Cornu, revenons encore une fois à cette vente d'armes par la France à certains pays, dont l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis tout récemment. Mais tout reste à savoir, Bernard Cornu, que cette vente d'armes onéreuses est parfaitement calibrée par la France et, oui ou non, poussée par Israël. Car Israël a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région. Que pensez-vous ?
C'est difficile à répondre parce que c'est vrai qu'au Maroc, il y a toujours eu des relations maintenues entre le Maroc et le royaume du Maroc et l'État d'Israël, où il y a de nombreuses communautés marocaines. Il y a eu des visites d'État, enfin de ministres, il y a des connivences importantes entre le Maroc et Israël. Donc, à l'opposé, l'Algérie a toujours soutenu, par exemple, le mouvement palestinien. On l'a vu encore récemment lorsque l'Algérie a gagné une coupe de football arabe contre le Maroc et que tous les joueurs se sont déployés sur le terrain en affichant non seulement le drapeau algérien, mais aussi un grand drapeau palestinien. Donc ceci était une façon symbolique de s'opposer à la position, non pas du peuple marocain, mais des autorités marocaines qui facilitent leurs relations avec Israël et établissent des connivences avec les services secrets israéliens. On l'a vu récemment avec les publications sur le réseau, l'utilisation du logiciel d'origine israélienne Pegasus. Donc je pense que dans certains pays, il y a des connivences entre les marchands d'armes, même les autorités françaises du ministère des Affaires étrangères et les autorités israéliennes. Dans le cas des Émirats, c'est moins sûr. C'est sûr que suite aux actions de temps de Trump et de son gendre Kouchner, il y a eu le rétablissement de certaines relations diplomatiques. Mais je pense que, en général, la population arabe est tout à fait contre, et même dans les pays riches, est tout à fait contre cette normalisation avec l'État d'Israël tant que la justice ne s'est pas exercée pour rétablir les droits des Palestiniens. Voilà, mais c'est une lutte permanente des peuples ici en Occident aussi pour imposer la priorité à la justice et non pas à l'économie et aux ventes d'armes.
Oui. Philippe,
il y a des grandes manifestations à Londres. D'ailleurs, je fais partie d'un mouvement à Londres conduit par la gauche anglaise contre les guerres qui fait très souvent des manifestations. Et en France aussi, il y a des manifestations nombreuses aussi du mouvement de la paix pour protester contre ces ventes d'armes et l'incitation à laisser continuer des guerres comme au Yémen ou en Syrie ou en Irak pour des intérêts économiques.
Oui, tout à fait. Philippe Hugo, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie, à cet égard, comme la France nourrit en armes le Maroc et l'Algérie, l'Algérie qui soutient la cause palestinienne et le Maroc qui a rétabli sa relation avec Israël. En nourrissant ces deux pays-là, je crois qu'on nourrit le différend qui devrait donc continuer entre ces deux pays-là. Que pensez-vous ?
Oui, alors, vous savez, c'est ce que je vous disais, l'argent n'a pas d'odeur. Aujourd'hui, la France vend des armes à n'importe qui et il suffit de passer par des sociétés dans des paradis fiscaux qui permettent de contourner un certain nombre de lois. Ça, moi, j'en ai été témoin lorsque j'avais mon entreprise d'exportation. Eh bien, pour éviter les sanctions, on passait par des sociétés annexes ou de petites sociétés. Il y a même des grosses sociétés françaises qui passaient par ma petite société pour vendre un certain nombre de produits à certains pays qui étaient sur liste rouge. Donc là, je suis bien placé pour en parler et de savoir comment se passent les choses aujourd'hui. Alors, bien sûr, il est clair que la France ne renoncera jamais à la vente de ces gros contrats, quel que soit le prix à payer en vie humaine pour un certain nombre de pays. Vous savez, je crois que on est aujourd'hui dans la société occidentale, une société qui est basée sur l'argent, où le statut de valeur de l'être humain se joue sur la grosseur de son compte en banque. Donc on sait très bien que tous les pays qui ont basé leur valeur naturelle sur l'argent, leur valeur de base sur l'argent, sont des pays qui se sont tous effondrés, puisque l'argent n'est pas une bonne valeur de référence sur la qualité des gens et des peuples. Au contraire, cet argent, elle corrompt les gens, elle pourrit les gens, et elle fait prendre des décisions à des gouvernements qui ne sont pas de bonnes décisions. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement néfaste ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'investir de l'argent dans la paix, de façon à trouver des solutions pérennes et de ne pas affamer les gens, de ne pas... c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous allez en Afrique. Vous savez, j'ai eu un bureau à une époque au Bénin, en Afrique, et on a vu comment les choses se passaient au Mali, comment les choses se passaient au Niger, Donc on sait très bien qu'il existe des solutions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les appliquer, parce que ce sont des solutions qui ne rapportent rien. Du moins, ça pourrait rapporter à long terme, mais à très court terme, ça ne rapporte rien. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés qui vendent des armes... Oui.
Philippe Hugon, justement, la même question que j'ai posée à Bernard Cornut à cet égard, c'est cette vente d'armes qui est calibrée, organisée par la France à ces pays-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est encouragé et même poussé par Israël, qui a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région?
Alors, en ce qui concerne le Proche-Orient, c'est autre chose. Il est vrai que Israël est dans une position économique qui est effroyable, hein. Il suffit de regarder les ratios financiers d'Israël. C'est un pays qui n'existe et qui ne tient que par l'aide américaine aujourd'hui, et que Israël a tout intérêt à créer des zones de stabilité au Proche-Orient afin de pouvoir conserver ses frontières et son pays. On sait très bien que le jour où la Ligue arabe et tous les pays arabes seront solidaires, je ne donne pas cher de la continuité de ce pays. De toute façon, il ne faut pas vous faire des illusions. Dans 20 ans, Israël n'existera plus sous cette forme actuelle. Et Israël ne pourra plus tenir, car c'est une situation intenable. Quand on tient un pays par la force, et c'est le cas notamment d'Israël, on l'a vu dans les pays communistes notamment, il arrive à un moment donné où vous arrivez dans une position qui est intenable. Intenable financièrement, intenable économiquement, intenable militairement. Donc pour l'instant, si Israël existe encore, c'est parce qu'il y a des dissensions dans les nations arabes au Proche-Orient. Le jour où ces nations-là seront réunis et seront solidaires notamment de la Palestine, eh bien je ne donne pas cher de la situation d'Israël dans sa forme actuelle, j'entends. Hein. Donc il est clair qu'Israël a tout à gagner à ce qu'il y ait une situation instable au Proche-Orient.
Bernard Cornut, est-ce que vous voulez bien réagir à cet égard, je vous prie?
Bon, il faut savoir que dans l'industrie d'armement, il y a beaucoup d'électronique. Et qu'électronique, c'est très compliqué à comprendre les codes informatiques, le codage informatique qui est à l'intérieur de toute cette partie électronique. Donc d'une part, il est sûr que Dassault était dirigé avant par un juif français qui avait vendu les Mirages et les autres avions à Israël, et à une époque où la France, disons un peu avant De Gaulle, était tout à fait favorable géopolitiquement à l'État d'Israël et donnait des faveurs exceptionnelles pour ses ventes d'armes. Et à partir du moment où De Gaulle a commencé à vouloir refuser et limiter ses ventes d'armes, il y a eu même des détournements. On a connu l'épisode des frégates de Cherbourg qui ont été prises contre la volonté française et emmené discrètement en quelques jours par des équipes israéliennes qui ont fait ce coup de force. Donc il est difficile dans ces codages informatiques qui sont dans les armements, je pense qu'il y a de toute façon à la main du ministère de la Défense français la possibilité à distance de télécommander certaines de ces fonctions informatiques. Par exemple, pour le cas où les Émirats arabes unis voudraient attaquer un pays très ami de la France, très allié de la France, comme le Liban ou la Grèce, pour des raisons tout à fait imaginaires actuellement, mais je suis sûr qu'à distance, on peut tout à fait manipuler ces dispositifs informatiques, ces codes informatiques, pour empêcher toute utilisation contre nos propres intérêts. Donc je pense que tous ces armements sont des leurres, parce qu'il y a beaucoup d'informatique qu'il est très difficile à décoder, donc il est possible qu'on se fasse rouler, en fait, que tout acheteur de ces armements sophistiqués se fasse rouler, qu'il ne puisse pas. Alors il peut effectivement, dans des conflits dans lesquels la France n'aurait pas d'alliés, ça pourrait servir, mais dans des conflits où la France aurait des alliés, ça pourrait être désarmé à distance. Ça, j'en suis persuadé, c'est une évidence de l'informatique très complexe des systèmes d'armes modernes.
Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à M. Philippe Hugon, qui était également avec nous depuis Paris, d'avoir apporté donc ses explications à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour une autre émission consacrée à la région de l'Asie de l'Ouest. L'ambassade des États-Unis en Irak est devenue un nid de vipères. Cela fait longtemps que l'ambassade américaine à Bagdad a quitté sa mission diplomatique. Aujourd'hui, tout le monde considère l'ambassade américaine en Irak comme la plus grande base militaire de la capitale irakienne. Les Américains ont déjà déployé le système anti-aérien et anti-missile SERAM autour de leur ambassade et les dernières nouvelles indiquent qu'ils ont l'intention de déployer le système Patriot. De plus, les rapports les plus récents indiquent que les États-Unis conservent leurs armes lourdes à l'ambassade de Washington à Bagdad. L'ambassade des États-Unis à Bagdad est passée d'une ambassade à une caserne militaire, a déclaré Badr al-Zayadi, ancien membre de la Commission de sécurité et de défense du Parlement irakien, ajoutant « Le système américain SERAM sème la terreur chez les habitants près du quartier Al-Qadra de Bagdad. L'ambassade des États-Unis est le centre des opérations et une menace claire pour la sécurité et la souveraineté de l'Irak. » Les responsables irakiens sont nombreux à affirmer que le déploiement de systèmes tels que SERAM et Patriot autour de l'ambassade américaine à Bagdad est une violation flagrante de la souveraineté nationale irakienne et le gouvernement de Bagdad devrait prendre au sérieux les actions des Américains. De même, les groupes de résistance irakiens ont mis en garde à plusieurs reprises contre l'activité militaire américaine à leur ambassade à Bagdad. Les missions non diplomatiques de l'ambassade américaine ne se limitent pas aux sphères militaires et sécuritaires, mais vont au-delà par des activités qui nuisent à la culture irakienne. Haïdar Al-Lami, membre du bureau politique du mouvement Al-Nujaba, a annoncé samedi que l'ambassade américaine à Bagdad était devenue un nid vipère pour la décomposition du tissu social et culturel irakien, visant en particulier les provinces de Najaf et de Karbala. Avertissant que l'ambassade américaine à Bagdad représentait une menace plus importante que la présence militaire des États-Unis dans le pays, il a souligné la nécessité de reconsidérer le nombre de ses effectifs. Les forces d'occupation américaines et leurs agents kurdes des forces démocratiques syriennes ont tué 3 Syriens et kidnappé d'autres le lundi 13 décembre lors d'un embarquement aérien dans la ville de Busayra, dans la banlieue est d'Erzur. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, citant des sources locales, les hélicoptères des forces d'occupation américaines ont effectué à l'aube le débarquement et, avec le soutien des hommes armés des FTS, ont ouvert le feu sporadiquement sur les maisons et les terres agricoles. 3 civils ont été tués dans cette fusillade. Ces 2 derniers jours, des hommes armés ont attaqué les sièges militaires des FTS à Busayra et à Al-Riz, a indiqué le correspondant de la chaîne iranienne arabophone Al-Ala. Les forces d'occupation américaines et les FTS ont perquisitionné certaines maisons de la ville et kidnappé un certain nombre de ses habitants. Cette opération, qui a duré 2 heures, est le deuxième du genre depuis le début de ce mois-ci. Le 7 décembre dernier, les soldats américains et leurs agents kurdes avaient également attaqué la ville d'Al-Shail, où ils ont enlevé des habitants puis ont détruit leurs maisons. Le mois dernier, les forces d'occupation américaines avaient effectué 6 opérations de débarquement aérien dans plusieurs régions des gouvernorats situés à l'est de la Syrie, où elles disposent d'une dizaine de bases militaires illégitimes, notamment dans les champs de pétrole, qu'elles pillent régulièrement puis acheminent vers le Kurdistan d'Irak. Dans la foulée, une base militaire américaine en Syrie a été attaquée par des inconnus. La base militaire américaine, proche du champ pétrolier d'Al-Omar, située dans l'est du rift des Rezor, dans l'est de la Syrie, a été attaquée par plusieurs missiles. Des sources locales ont déclaré avoir entendu au moins 4 explosions et avoir vu une colonne de fumée s'échapper de l'intérieur de la base. Après l'explosion, des drones américains ont survolé la zone et surveillé les régions autour des puits pétroliers. Un autre drone de reconnaissance de la coalition d'agression saoudienne a été abattu dans la nuit de lundi à mardi 14 décembre dans le ciel de Shabwa, à l'est du Yémen. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a annoncé que la défense anti-aérienne du Yémen avait détruit dans la nuit de lundi à mardi un drone de reconnaissance CH-4 appartenant à la coalition d'agression saoudienne au-dessus du district d'Asilan qui appartient à la province de Shabwa. Le CH-4 menait une mission d'espionnage quand il a été abattu par un missile solaire de la DESA yéménite, a précisé le général Sali. C'est le deuxième CH-4 de l'aviation saoudienne qui a été abattu en une semaine par les systèmes de défense anti-aérienne de l'armée et des comités populaires du Yémen. Dans le sud-ouest de la province d'Hodeïda, d'intenses affrontements ont été signalés en banlieue d'Aïs. Selon une source sur place, les mercenaires à la solde de Riyad continuent de mener une série d'assauts épaulés par l'aviation saoudienne afin de barrer la route aux combattants yéménites qui essayent de progresser dans les régions voisines de Haïs. Les combattants yéménites, qui se sont vus confrontés à une attaque surprise des mercenaires pro-saoudiens, ont décidé de procéder à un recul tactique qui s'est soldé plus tard sur une contre-attaque suite à laquelle les mercenaires ont été encerclés, a expliqué la source, ajoutant que des dizaines d'éléments pro-saoudiens avaient été tués ou blessés. Une quinzaine de véhicules militaires des mercenaires ont été détruits, a-t-elle aussi indiqué. La coalition d'agression saoudienne fait tout pour renforcer ses positions aux alentours d'Aïs, car elle sait bien qu'en perdant Aïs, elle perdra Hudaïda. La source yéménite a précisé que les forces de Sanaa avaient déjà atteint les monts du nord et du sud-est d'Aïs, qui surplombaient la banlieue de la ville. pendant les derniers jours. Les combattants yéménites ont lancé plusieurs attaques contre les mercenaires et leur ont infligé des victimes et des dégâts par les frappes aux missiles. Les combattants yéménites ont identifié et détruit la voiture du général de brigade Salah Salem, commandant de la 6e brigade des forces pro-Riyad, par un missile thermique. Tous les occupants de la voiture ont été tués, a indiqué la source. L'occupation israélienne rase un territoire de 4700 mètres carrés et prépare la construction d'une colonie jusqu'à Bab al-Amoud, dans la sainte ville de Rotz. Les équipes de la municipalité de l'occupation israélienne et leurs bulldozers ont commencé à raser un terrain situé à l'entrée est du quartier de Sheikh Jarrah, à l'est de la ville occupée d'Al-Rotz, et qui avait confisqué au motif de l'intérêt public, a révélé l'agence de presse palestinienne Wafa, selon laquelle la superficie de ce terrain est d'environ 4700 mètres carrés. Le conseiller du bureau présidentiel de l'autorité palestinienne, Ahmed al-Rouwaidi, a estimé que ce qui se passe à Sheikh Jarrah est le prélude pour la saisie de 28 propriétés afin d'y établir 200 unités de colonisation, ce qui sera accompagné du déplacement forcé de la population palestinienne d'Al-Rotz pour renverser l'équilibre démographique de la ville. Al-Rouwaidi a ajouté à Wafa que ce qui se passe à Sheikh Jarrah s'inscrit dans le contexte d'une politique israélienne visant à imposer un fait accompli géographique et démographique à Rotz par le contrôle total de l'immobilier et des terres pour mettre en œuvre des projets de colonisation en imposant ainsi un fait accompli par la force et l'utilisation d'une loi israélienne raciste qui n'a de considération que pour les intérêts des colons et mettant en œuvre le programme du gouvernement d'occupation israélienne. À noter que la Cour suprême de l'occupation avait rendu le mois d'octobre dernier une décision autorisant la saisie du terrain au profit de la municipalité d'occupation à Rotz, dans le but d'y aménager un jardin qui servirait aux colons. L'occupation israélienne étudie un projet de construction de 6 colonies dans la ville sainte de Rotz, selon le journal Haaretz, ce qui entraînera l'évacuation d'un grand nombre de Palestiniens de leurs maisons. Le journal a expliqué sur la base de documents officiels que ces plans sont sans précédent, car pour la première fois, une initiative est annoncée pour construire des quartiers et des bâtiments dans 5 quartiers de Rotz, à savoir Sheikh Jarrah, Bab al-Amoud, Beit Safava, Beit Hanina et Sour Bahar. Le plus dangereux est l'établissement d'un quartier de colonie s'étendant de Sheikh Jarrah à Bab al-Amoud. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie.